Et c'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une église de la Nativité privée de ses fidèles et de ses touristes. Nous serons à Bethléem en début de journal. La ville de naissance du Christ, selon la tradition chrétienne, désertée à cause du coronavirus. Reportage à suivre. Marché conclu entre Bruxelles et Londres. Un accord commercial historique signé hier afin d'organiser l'après-Brexit. Réaction de soulagement pour la plupart des acteurs économiques. Exemple dans ce journal des producteurs de pommes français. Maintenant, il va falloir faire voter ce texte de 2000 pages. Les députés britanniques y sont favorables. Nous serons à Londres. Certains députés européens, toutefois, sont plus sceptiques et attendent d'avoir l'accord entre les mains. On l'entendra. Dans ce journal également, une année 2020 qui se termine plutôt bien. Pour certains, en tout cas, le jeu de rôle, notamment, qui a bien failli disparaître, revient à la mode à la faveur des confinements.
Et dans 20 minutes, un invité pas comme les autres. Il s'appelle Jamy Gourmaud, mais pour tout le monde, c'est Jamy. Jamy et ses lunettes rondes. Jamy nous raconte aujourd'hui sa chaîne YouTube Les Épicurieux et son livre chez Jamy. Je vais vous expliquer.
France Inter.
Avant de commencer ce journal, quelques mots d'un aventurier au bout du monde. Un joyeux Noël souhaité depuis l'océan Pacifique.
Oui, les mots d'un certain Jean Le Cam, skipper du Vendée Globe, seul à bord de son bateau hier soir, Yes We Cam, et qui prend le temps de penser aux autres solitaires.
À tous ceux qui sont tout seuls, ben moi je suis tout seul, nous sommes ensemble. Et je vous embrasse très fort. Bon Noël encore, joyeux Noël et Yes We Cam.
Voilà, Jean Le Cam au beau milieu du Pacifique, qui malgré tout ne perd pas le nord. Au menu de son réveillon en pleine mer, riz de veau au mori, s'il vous plaît, chair de crabe, foie gras et marron, sans oublier du beurre salé de Quimper et une petite bouteille de Bordeaux.
Clac, 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 comme dirait Jean Le Cam. Allez, ambiance moins légère en revanche hier soir en Terre Sainte.
Ouais, d'habitude, ce sont des milliers de personnes qui assistent à Bethléem à la messe de minuit devant l'église de la Nativité et à l'extérieur. Mais cette année, ils étaient seulement une petite centaine de fidèles à l'intérieur de la basilique et une poignée sur le parvis. La ville de la naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne, est comme partout frappée par le Covid. Une bonne partie de la Palestine est confinée sous couvre-feu. La naissance du Christ a donc été célébrée hier soir presque sans public. C'est un reportage de notre correspondant Frédéric Mettezo.
Les décorations scintillent autant que les autres années, mais là, il n'y a presque personne pour les voir. Quelques badauds descendus de chez eux, des journalistes qui filment une place déserte, et Mohamed qui contemple tristement le sapin géant et la crèche. Je les installe chaque année, explique cet employé municipal. Mais cette année, avec le corona, c'est tellement différent. Allez, c'est bon, ça suffit. Dans l'église, seule une centaine de fidèles peuvent apprécier le faste de la messe. Les choristes sont masqués, mais quel souffle! Pour le patriarche latin de Jérusalem, cette pandémie nous demande d'imaginer un monde différent, fait d'une nouvelle solidarité et de relations fraternelles, où la possession est remplacée par le don, où l'aisance de quelques-uns devient un bien commun.
Cette année, vraiment drôle de Noël.
Frère Fabrice, un moine du Congo-Brazzaville, pense que plus il y a d'inquiétude, plus il y a d'espérance.
Les gens, lorsqu'ils sont dans des moments difficiles, ils sont plus assidus à la prière, ils cherchent plus l'aide. Pendant ces temps difficiles, les chrétiens, les fidèles ont aussi besoin d'un sauveur.
Les commerçants ambulants remballent, ils n'ont vendu ni pralines, ni boissons chaudes. Et dire qu'il y a un an, on avait battu ici tous les records de fréquentation. Bethléem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et puis à Rome, c'est un pape un peu seul qui a célébré aussi la messe de minuit hier soir au Vatican. Une messe de minuit à 19h30, décalée. Et en petit comité, à peine 150 fidèles, ils étaient 7000 l'an dernier. Le pape François qui adressera son 8e message de Noël, Urbi et Orbi, aujourd'hui par vidéo pour éviter la foule sur la place Saint-Pierre.
À l'inverse, on a sabré le champagne hier à Londres et à Bruxelles.
Après 4 années de négociations, une dernière ligne droite pleine de rebondissements, un accord commercial inédit a donc été signé in extremis entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un divorce à l'amiable post-Brexit salué des deux côtés de la Manche. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer? C'est le retour d'abord des déclarations de douane pour les marchandises qui transitent entre des pays de l'UE et le Royaume-Uni. Des douanes, mais pas de droits de douane. Londres continuera d'accéder ainsi au marché européen, mais sous conditions. Les entreprises britanniques ainsi devront respecter un certain nombre de règles en matière d'environnement, de droit du travail ou de fiscalité pour éviter tout dumping. En cas de non-respect de ces règles, eh bien, un mécanisme permettra de réactiver des droits de douane. Ce deal vaut toujours mieux qu'un no deal. En clair, c'est avant tout la satisfaction qu'il emporte depuis hier. Exemple, dans la filière de la pomme française, très dépendante, Sarah Lemoine, des Britanniques.
La Grande-Bretagne, c'est le premier pays d'exportation pour les producteurs français de pommes. L'an dernier, ils en ont expédié 80 000 tonnes, principalement des Pink Lady, des Braeburn et des Golden dont raffolent les Anglais. Et la bonne nouvelle, c'est l'absence de droits de douane à partir du 1er janvier. Jocelyn Saint-Raymond, directeur de l'association Pomme Poire.
On aurait dû être soumis à des droits de douane de 8% et dégressifs à 4%. Donc on échappe à un contexte de bataille commerciale important. Il y a déjà des incertitudes sur la parité entre la livre et l'euro. Et donc là, pouvoir s'affranchir de droits de douane, c'est déjà quelque chose de bon augure pour la future relation avec la Grande-Bretagne.
Une interrogation subsiste en revanche sur les futures règles phytosanitaires.
Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on pouvait expédier des pommes dans un supermarché anglais de la même manière qu'on le fait dans un supermarché français. Là, il va y avoir une douane qu'il va falloir passer. Il va falloir que l'on démontre que les pommes françaises qui rentrent sur le territoire britannique correspondent à la réglementation britannique. Et donc, nous espérons dans le détail du texte qu'on va pouvoir garder les mêmes règles pour le commerce des pommes.
Jocelyn Saint-Raymond, qui attend donc de connaître le détail des 2000 pages de l'accord avant de se réjouir complètement.
Sarah Lemoine, à l'inverse, il y a un secteur qui se pose beaucoup de questions ce matin, c'est celui de la pêche point d'achoppement, des discussions depuis des jours. Les pêcheurs européens vont finalement devoir rendre 25% de leur prise, de leur quota de façon échelonnée sur 5 ans et demi jusqu'en juin 2026 et après 2026. L'accès aux eaux britanniques sera renégocié chaque année. À noter aussi une autre grosse déception dans cet accord, la fin du programme d'échange universitaire Erasmus avec le Royaume-Uni. Ce texte de 2000 pages doit encore être validé politiquement, validé des deux côtés de la Manche, par le Parlement britannique et le Parlement européen. Côté Westminster, a priori pas d'obstacle, les précisions à Londres de Richard Place.
Les députés vont maintenant avoir l'occasion de se plonger dans ces centaines de pages parfois arides, entrer dans les détails, et ce n'est pas ce que préfère Boris Johnson généralement. Une négociation réussie, ce sont forcément des concessions, et pour l'instant, des deux côtés, on n'en a pas reconnu beaucoup. Le Premier ministre britannique n'aura pas à faire une promotion folle de cet accord, il sait déjà que le vote du 30 décembre lui est acquis. Le Parlement doit se réunir ce jour-là lors d'une session extraordinaire afin de valider cet accord. La seule majorité conservatrice devrait suffire, même s'il y aura sans doute quelques ronchons, et quand bien même il devrait faire face à une improbable fronde au sein de ses propres troupes, il pourra compter sur l'opposition. Les travaillistes ont déjà fait savoir qu'ils ne feraient pas la fine bouche par la voix de leur leader, Keir Starmer. Quand cet accord arrivera devant le Parlement, le Parti travailliste l'acceptera et votera pour. Mais permettez-moi d'être absolument clair. Je m'adresse directement au gouvernement. Plutôt qu'un no deal, nous acceptons cet accord. Mais les conséquences de tout ça, ce sont les vôtres. Boris Johnson tient son succès de fin d'année, son cadeau de Noël, son Merry Brexmas, comme on dit ici. Londres, Richard Place, France Inter.
Côté Union européenne maintenant, ça s'annonce plus laborieux. Chaque gouvernement des 27 devra se plonger dans ce texte que pour l'instant personne n'a vu officiellement. Ensuite, chaque parlement doit le ratifier avant de le soumettre au Parlement européen. En attendant, le texte entrera en vigueur de façon provisoire dès le 1er janvier prochain. Les députés européens ne donneront donc leur avis qu'après début 2021, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Écoutez par exemple l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, Karima Deli.
Pour l'instant, ce n'est qu'un accord qui est provisoire. Nous attendons l'accord des États membres et puis, bien sûr, l'accord du Parlement européen.
Donc, vous êtes encore plutôt prudente.
Il est vrai que nous allons rentrer dans une période un peu, on peut le dire, délicate. Nous avons toujours plaidé pour un accord. Néanmoins, la temporalité, on peut un peu la regretter de cet accord parce que l'application provisoire, de fait, du texte avant l'examen, le vote du Parlement, c'est un petit peu dommage. Le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Nous allons examiner attentivement tous les points, aussi bien sur le volet des transports routiers, du transport aérien, que les règles du marché intérieur, et bien sûr la question de la pêche qui sera au cœur de nos préoccupations. Maintenant, il est de notre devoir de faire en sorte que le Parlement européen puisse le valider.
L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Karima Deli avec Bertrand Galichet, pour tout saisir de cet accord historique, rendez-vous sur franceinter.fr, dossier complet en ligne. On reste autour de la Manche avec des centaines et des centaines de poids lourds toujours bloqués aux alentours du port de Douvres, même si le trafic s'est un peu fluidifié hier. Les chauffeurs attendent encore de se soumettre à un test. La France a envoyé hier plus de 1000 repas routiers qui ont passé passer le réveillon au Royaume-Uni. Un réveillon inédit aussi pour les Français. Avec au menu, on le sait, gestes barrières et petits comités, la France a comptabilisé hier 21 634 nouveaux cas de contamination. Un nombre élevé en raison notamment d'une ruée sur les tests avant les retrouvailles familiales de cette fin d'année.
On termine avec un jeu qui a fait les beaux jours de notre adolescence et qui revient à la mode, j'ai nommé le jeu de rôle.
Oui, ce jeu de rôle papier ou sur table, comme on dit, ce jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction par l'interprétation de rôle et au moyen d'un jeu de dés parfois très complexe, eh bien le confinement a redonné des ailes au jeu de rôle, illustration avec l'éditeur français spécialisé Black Book Edition, qui est passé de 10 à 20 salariés en un an pour faire face à une demande qui explose. Olivier Bénis.
C'est un loisir qui revient de loin.
Le jeu de rôle est passé pas loin de la mort clinique au début des années 2000.
Thomas Bergeron est salarié actionnaire de Black Book.
Les principaux éditeurs s'en étaient désintéressés, les joueurs étaient partis sur d'autres types de loisirs, les cartes Magic, World of Warcraft sur ordinateur, les jeux de société aussi beaucoup.
C'est dans ce creux de la vague que la société Black Book est créée, avec pour ambition de traduire des jeux de rôle à succès et d'en créer de nouveaux.
Les 10 premières années ont été très difficiles, c'était vraiment la traversée du désert, sans salariés, avec des investissements personnels, des ventes qui décollaient pas.
Mais depuis quelques années, l'arrivée du financement participatif, le succès de séries comme Game of Thrones ou Stranger Things et le soutien de parrains prestigieux ont offert au jeu de rôle un retour en grâce que le confinement n'a pas éteint, bien au contraire.
2020 a permis de l'amplifier parce que justement avec le confinement, les week-ends à la maison, il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers le jeu de rôle mais pas seulement vers le jeu de société en général. Et là, c'est sûr qu'on a senti, notamment pour tout ce qui était les produits dématérialisés, on a senti un engouement vraiment très fort. Et l'intérêt vers les jeux dans la vraie vie, entre soi, à table, de convivialité, a permis de poursuivre la bonne dynamique enclenchée. Ouais.
Une dynamique que les rôlistes espèrent amplifier encore l'année prochaine. On croise les doigts, on lance un D20 de sauvegarde pour eux.
Voilà, un D20 de sauvegarde. Je suis sûr que ça vous rappelle les souvenirs, Laetitia.
Oui, merci Sébastien Legénie. Votre rôle est terminé pour le journal de 7h30.